Selon son habitude, Jésus s'est assis et il a rassemblé autour de lui ses disciples, ceux qui étaient là, ceux qui étaient désireux d'entendre sa parole. Il s'est assis comme celui qui enseigne avec autorité, nous dit la parole de Dieu. Il a commencé à leur parler en leur disant, « Voilà, le royaume des cieux est semblable à... » Et il a commencé à leur raconter une de ces paraboles dont il avait le génie, une histoire de leur vie quotidienne. Et il leur dit, voilà, un homme avait un grand domaine. Il avait de grandes vignes. Et comme d'habitude, cet homme veut chercher des ouvriers pour travailler dans sa vigne. C'est à l'époque où beaucoup de gens travaillent comme journaliers. Alors c'est au propriétaire à aller chercher les employés dont il a besoin. Et le texte nous dit, Jésus raconte, cet homme va sur la place de la ville à 6h du matin. La place de la ville, c'est cet endroit où la ville vit. C'est là où il y a les vieux courbés sur leurs bâtons qui regardent tout ce qui se passe. Et ils savent tout ce qui se passe. Celui-ci est sorti de la ville aujourd'hui. Celui-ci n'est pas sorti. Tiens, peut-être qu'il est malade. Tiens, ce garçon est sorti avec cette jeune fille. Ah ah! Tiens, aujourd'hui, il est passé avec une autre. Oh oh! Et les anciens sont là. Oh, vous savez, les anciens, ils disent qu'ils voient mal, mais ils voient ce qu'ils veulent voir. Et ils entendent, oh, ils disent, je suis un peu sourd, mais ils entendent ce qu'ils veulent bien entendre. Et sur la place de la ville, il y a les vieux qui sont là et qui savent tout sur ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, tout. C'est là que vit la ville. C'est là que l'on vient pour vendre les choses, c'est là que l'on vient pour parler, c'est là que l'on vient pour faire les transactions, c'est là que l'on vient pour demander à ses anciens conseils sur ce qu'il faut faire dans la vie. Alors cet homme va sur la place à 6h du matin et il trouve là les saisonniers qui attendent d'être employés. La journée de travail, elle a 12h, de 6h à 6h. Alors ce maître va là, il voit des hommes qui n'ont rien à faire, qui attendent d'être utilisés pour gagner leur vie. Et il les embauche. Venez travailler dans ma vigne. Je vous donnerai un denier. Et un denier, c'est le salaire normal d'une journée de travail. Rien d'extraordinaire. Jésus raconte finalement le quotidien de ces gens-là. Jusque-là, dans l'histoire, tout va bien. Un maître qui a besoin d'ouvriers, qui va en chercher sur la place de la ville, qui leur donne un denier, fantastique. Ça, c'est une bonne parabole, parce que c'est ce que nous vivons tous les jours. Mais son domaine est important, il est grand, et il n'a pas assez d'ouvriers pour travailler pour lui. Alors, il revient, nous dit le texte, à 9h du matin. Et il y a là encore des gens, oh, ils se sont levés un petit peu plus tard. Et il dit, mais qu'est-ce que vous faites là? On attend d'être embauché. Mais venez, moi j'ai du travail plein les vignes. Venez, je vous donnerai une rétribution juste et raisonnable. Bon, d'accord, ils viennent. Mais cet homme a un immense domaine. Si bien qu'à midi, il passe sur la place de la ville et il y a là encore des gens qui attendent, qui cherchent des employeurs pour la journée. Et cet homme s'adresse à ses ouvriers, il dit, mais vous n'avez pas de travail? Ben non, personne n'est venu pour nous embaucher. Mais venez, moi j'ai du travail pour vous. Ok, je vous donnerai un salaire raisonnable. Alors ils viennent pour travailler dans la vigne de cet homme. Et puis, ce maître, ce vigneron, revient à 3h de l'après-midi. Et là déjà, les gens qui écoutent cette parabole se disent, ça commence à être bizarre, parce que quel est le maître qui va vouloir employer quelqu'un à 3h de l'après-midi? Enfin, on vient travailler à 6h le matin, ça commence. Il n'y a pas à 3h de l'après-midi. Et pourtant, lui, à 3h de l'après-midi, il va encore sur la place de la ville et il trouve des gens qui sont là à rien faire. Ils sont à la terrasse du café en attendant qu'un maître, un homme bien habillé, vienne chercher des travailleurs. Cet homme passe devant les terrasses du café, s'il y en avait, et leur disent, mais enfin, vous ne faites rien. Ben non, personne n'est venu nous chercher. Mais venez, j'ai du travail pour vous. Alors ils viennent. Et puis ce maître est un maître curieux. Déjà ceux qui écoutent dans l'assemblée se disent, il est bizarre ce maître, ça a bien commencé mais c'est un peu étrange. Quel est le maître qui va aller, cette fois-ci, à 5 heures de l'après-midi pour chercher des employés? Enfin, on arrête à 6 heures. Il vient, le maître, et il trouve encore des gens qui sont là à ne rien faire. Tu n'auras pas d'argent aujourd'hui? Mais non, mais personne n'est venu me chercher. Mais à quelle heure es-tu venu? Ben, il est arrivé peut-être un peu tard pour chercher du travail. C'est ça le problème. Alors le maître lui dit, à 5 heures, tu veux travailler pour moi? Oui. Alors viens, je te donnerai un salaire raisonnable. 5 heures. Le temps qu'il arrive, qu'il monte dans le pick-up du vigneron, et que le vigneron l'emmène sur sa terre, qui lui donne les outils, il commence à travailler. Écoutez, ils ont commencé à 5 heures, tout s'arrête à 6 heures. Combien de temps ont-ils travaillé? Pas grand-chose. Les autres sont déjà tous là, en transpiration, mouillés sous les bras et mouillés dans le dos. C'est la pleine activité. On essaie d'achever le travail, commencer pour finir à 6 heures. Et ils arrivent frais et dispos. Ils grattent un peu ici, ils grattent un peu là. Ils ont juste à peine le temps de se mettre dans le travail que le serviteur sonne de la trompette, c'est la fin de la journée. Et eux, ils viennent d'arriver. Enfin, presque. C'est un moment important de la journée parce que c'est maintenant qu'on va recevoir la paye. S'il n'y avait pas de salaire, il n'y aurait pas eu d'ouvrier non plus, vous comprenez? Alors le maître va voir son trésorier qui arrive avec le sac de pièces et lui dit, écoute une chose, tu vois tous ces ouvriers là, tu vas les payer et tu vas commencer par ceux qui sont arrivés les derniers et puis tu vas les payer eux et puis tu les prends dans l'ordre inverse de leur arrivée, d'accord? Alors ils ont l'habitude, les ouvriers, ils s'alignent tout près du trésorier. Et le trésorier leur dit, écoutez, les derniers venus, où sont-ils? Alors, désordre dans la queue s'organise dans l'autre sens. Les derniers arrivés sont devant. Et ceux qui sont derrière se disent, qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, ceux qui écoutent Jésus raconter cette histoire se disent, ouh là là, c'est plus exactement comme il faut ça. D'abord, heureusement qu'il n'a pas de syndicat, parce que sinon ça commencerait à ne pas aller très bien. Et puis, le trésorier qu'il a avec son sac de pièces commence à donner un denier à celui qui est arrivé le dernier. Oh, le dernier, il se dit, sans blague, fantastique, mais ça c'est merveilleux. C'est le salaire d'une journée pour quelques minutes de travail. Parfait, je reviendrai demain à 5 heures. Le deuxième qui est arrivé tard aussi reçoit encore un denier. Merveilleux. Depuis le fond de la queue, les premiers arrivés regardent, ils disent, oh, il est généreux ce maître-là, il donne un denier à celui qui est arrivé à 5 heures, alors qu'on arrête de travailler à 6. Fantastique. Alors nous, on va avoir quand même un bonus, non? Et quand on arrive à ceux qui sont arrivés à 3 heures, ils ont aussi un denier. Les premiers se disent, tiens, nous qui avons commencé à 6 heures, t'imagines ce qu'il va nous donner? Et quand on arrive à eux, Jésus dit, le trésorier de cet homme-là va leur donner un denier. Et ils disent, oh, ça ne marche plus. Regarde, disent ces gens, nous on a travaillé depuis 6 heures du matin. On a travaillé sous la chaleur, on n'a pas arrêté. On a travaillé toute la journée pour toi de 6 heures à 6 heures. Et à ces gens qui sont venus à la dernière heure, qui ont travaillé presque rien, qui ont juste eu le temps de prendre les outils et de gratter un peu à droite à gauche, tu leur donnes le salaire d'une journée entière et à nous tu donnes la même chose, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et là, Jésus a l'attention de tous ceux qui écoutent parce que cette histoire ne tient pas debout. Un maître qui fait ça, il ne fait pas ça innocemment. Il veut des problèmes. J'en parlerai à mon syndicat, tu vas voir. Mais imaginez, vous travaillez dans une entreprise et vous travaillez à plein temps. Et puis il y a un petit jeune qui arrive, qui travaille même pas au quart de temps. Allez, un cinquième, Un sixième de temps. Il vient un petit peu, il fait un petit travail là, et il s'en va. Et à la fin du mois, il a le même salaire que vous. Qu'est-ce que vous allez dire? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et vous allez penser, non pas à lui, qui a reçu un salaire complet pour quelques petites heures de travail. Vous allez penser à vous, qui avez travaillé et qui avez votre salaire le même que lui. Alors Jésus continue son histoire. Ses ouvriers protestent et disent « ça ne marche pas cette histoire-là ». Et ceux qui sont dans l'assemblée et qui écoutent disent « c'est juste, ça ne marche pas, c'est pas correct de faire les choses comme ça. On ne va pas donner un salaire complet à celui qui ne fait presque rien, le même à celui qui travaille toute la journée ». Et Jésus continue parce qu'il va mettre des paroles dans la bouche du maître. Et le maître va leur dire « dis donc, combien est-ce qu'on avait convenu ensemble au début de la journée ? Un denier ? Je t'ai donné un denier. Prends ton argent et va-t'en. Au fait, est-ce que ça te pose un problème que je sois bon envers celui qui est arrivé à 5 heures ? Non, parce qu'en fait, cet argent que tu reçois, c'est mon argent. Ça te pose un problème si je fais ce que je veux avec mon argent ? Je ne t'ai pas volé. Je t'ai donné ce que l'on avait convenu ensemble. Un denier ? Un denier ? Tu te plains de quoi ? Va-t'en. Et Jésus dit, ainsi, les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Au début du chapitre, Jésus avait dit l'inverse. Il avait dit, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Une histoire incroyable. Et les gens qui entendent cette histoire se disent, c'est quoi le rapport entre cette histoire et le royaume des cieux ? Parce que ça, c'est encore une histoire qui ne tient pas debout. C'est une de ces histoires de Jésus qui commence bien, qui finit mal, ou qui finit bizarrement. Et on a envie, comme les disciples, d'aller voir Jésus en aparté et de lui dire, dis donc, cette histoire-là, tu pourrais nous la raconter comme il faut pour qu'on comprenne quel est le lien entre le royaume des cieux et ce que tu as raconté, parce que ça ne marche pas ton histoire. Alors Jésus, bien entendu, parle ici à un auditoire qui peut-être va comprendre. Parce que les premiers qui ont été invités, ce sont bien sûr les Juifs qui ont reçu la parole de Dieu avec les promesses. Et à qui Dieu a donné cette promesse. La promesse de la vie éternelle à tous ses serviteurs. Seulement, il y en a qui sont arrivés après, dans le temps. Il y en a qui sont arrivés plus tard, et puis il y a ceux qui arrivent très tard. D'ailleurs, du temps même de Jésus, on va avoir les autres ouvriers qui arrivent. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Luc, il nous est rapporté qu'à un moment donné, des gens vont aller voir André et lui dire « Nous voudrions voir Jésus ». Et le texte nous dit que c'était des Grecs qui avaient voyagé de loin, qui avaient entendu parler de ce Jésus qui est là-bas à Jérusalem. Et ils disaient « Nous voudrions voir Jésus. » Et Jésus avait été touché par cette demande. Parce qu'il avait déjà vu au sein de son peuple des étrangers manifester une foi plus grande que les gens de son propre peuple. Un centenier romain, un soldat par exemple. Et voilà maintenant que des gens voyagent de loin pour venir le voir. Jésus sentait, voyait déjà là, ces ouvriers qui venaient à une heure tardive, qui n'avaient pas reçu la parole de Dieu au même moment que les Juifs, mais ils voyaient que de ces gens avaient dans leur cœur un désir ardent de le connaître, de le voir, de le rencontrer. Jésus voyait là ces ouvriers qui arrivent à 9h du matin, qui arrivent à midi, qui arrivent à 3h. Et puis vous vous souvenez, Jésus va prier son Père, c'est cette prière qui est rapportée dans l'évangile de Jean, chapitre 17. Où il dit, je ne te prie pas simplement pour eux, pour ces 12-là, je te prie pour tous ceux qui croiront à cause de leurs paroles. Mais ça, c'est vous et moi. En fait, nous sommes, nous aussi, ceux qui sont arrivés à la fin de la journée, si on prend le temps de cette façon-là. Nous sommes arrivés tardivement. Voilà 2000 ans que Jésus est remonté au ciel. Et il y en a encore des ouvriers de la 11e heure qui arrivent. Alors, dans le temps, bien entendu, tous ceux qui ne sont pas juifs, vont représenter tous ces ouvriers qui viennent plus tard. Et curieusement, ce sont les ouvriers qui étaient là les premiers qui n'ont pas compris ce que Jésus voulait leur montrer. Ce sont eux qui protestent. Alors que ce denier qui représente la vie éternelle, le salut, le même pour tous, ils l'ont aussi, un denier. Ils ont travaillé peu, ils ont travaillé beaucoup, ils vont recevoir un denier. Autrement dit, ce denier qu'ils reçoivent, cette pièce de monnaie, n'est pas un salaire du tout. Ce denier qu'ils reçoivent, c'est un cadeau. Qu'ils aient travaillé 12 heures ou une heure, ils vont recevoir le même parce que le maître a décidé de leur donner à tous le même cadeau, au même prix. La promesse qui nous a été faite, écrit l'apôtre Jean, c'est la vie éternelle. Et Jésus l'offre à tous ceux qui sont prêts à venir travailler pour le maître. Seulement, cette histoire peut aussi se placer au milieu de nous. Vous avez remarqué, ceux qui ont travaillé depuis la première heure avaient une mentalité très précise. Tu travailles une heure, tu gagnes une heure. Tu travailles deux heures, tu ramasses l'argent deux heures, et ainsi de suite. Salut par les heures, autrement dit. Ceux qui sont arrivés à la fin n'avaient pas grand-chose à offrir, ils ont travaillé une heure au plus, et ils reçoivent le salut pourtant. Mais ce sont les premiers qui ont protesté, c'est eux qui n'étaient pas d'accord. Ce sont eux qui n'étaient pas d'accord que c'est grec, que c'est païen, que c'est romain, que ces chiens de Samaritain soient sauvés aussi. C'est eux qui ne le voulaient pas, et c'est eux qui les mettaient à mort. Et Jésus disait, il y en a des derniers qui sont des premiers, et des premiers qui sont des derniers. Seulement, aujourd'hui encore, cette parabole peut s'appliquer à notre situation, parce qu'il y a dans l'Église des gens qui sont là depuis 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, et qui ont été baptisés au siècle passé. Alors quand tout d'un coup vient dans l'église quelqu'un qui les a toutes faites dans sa vie, il a fait toutes les bêtises que le monde peut imaginer, toutes les erreurs, il a goûté à tous les alcools, il a goûté à toutes les boîtes de nuit, il a goûté à tout ce que le monde offre, tout, je dis tout, jusqu'au jour où le Seigneur le frappe en plein visage et le fait rentrer dans l'église, parce que c'est là sa place. Ceux qui sont dans l'église depuis 50 ans, qui disent, dis donc, moi, j'ai pas mangé de viande impure depuis ma naissance. Moi, je n'ai pas été dans les boîtes de nuit. Moi, je ne lis pas ceci, je ne regarde pas la télévision, je n'ai fait ni ceci, ni cela, ni cela, ni cela. C'est toujours ma première femme. Toi, on ne les compte plus. Et puis maintenant, tu viens dans l'église et puis tu nous dis comment il faut faire. C'est pas un petit peu difficile à avaler, ça? L'ouvrier de la 11e heure qui arrive et que le Seigneur a été chercher sur la place de la ville parce que pendant toute la journée de sa vie, il a eu le temps de faire toutes les bêtises pendant que personne n'avait été le chercher pour l'embaucher. Et maintenant qu'il a fait toutes les bêtises de sa vie, le Seigneur l'appelle et l'amène dans son église. Et dit, voilà ta place. Et tu as un denier comme les autres parce que tu peux être sauvé par le cadeau que Jésus te donne. Alors au sein de l'Église, il peut y avoir aussi cette parabole-là. Mais il y a quelque chose qui manque dans cette histoire. C'est que le denier, ce n'est pas un salaire, c'est un cadeau. Un salaire, c'est une compensation par rapport au temps et à l'énergie que l'on a donné pour un travail demandé. Un salaire va être en proportion du service que j'ai donné. Si je travaille 10 heures, c'est normal que je sois payé 10 heures. Ce sera mon salaire. Si je travaille 2 heures et qu'on me paye 2 heures, ce sera un salaire parce que ce salaire sera en proportion du travail que j'aurai donné. Mais si le denier dans cette histoire n'est pas le salaire parce qu'il est un cadeau, où est le salaire dans cette histoire? Il est caché. Où est dans cette histoire la rétribution la compensation proportionnelle au travail offert, au travail donné. Pour que ce soit un salaire, il faut que cette compensation soit en proportion de ce qui a été offert comme travail. Le denier est le même pour tout le monde, c'est donc pas ça. Alors quand j'y pense, je réalise que les plus chanceux dans cette histoire, ce ne sont pas ceux qui sont arrivés à 5 heures pour à peine travailler quelques minutes dans les vignes de ce maître. Les plus chanceux sont ceux qui ont été appelés dès 6 heures du matin, dès le début de leur vie, et qui ont pu passer toute leur vie au service du Seigneur. Peut-être qu'ils ne se sont pas rendus compte que c'était une grâce. Peut-être qu'ils ne se sont pas rendus compte que c'était là la bénédiction que le Seigneur voulait leur donner. Mais ceux qui ont le moins de chance, ce sont ceux qui sont arrivés à la fin, parce qu'ils n'ont eu la grâce que de travailler tellement peu de temps avec le Maître. Ce sont eux qui ont perdu, pas les premiers. Les premiers, ils ont eu la chance de pouvoir travailler toute leur vie, toute la journée avec ce Maître. Voilà le salaire. Pouvoir servir le Maître. Toute sa vie, depuis le début de sa vie, une bonne partie de sa vie, à la fin de sa vie, mais d'avoir pu servir le Maître. Et le royaume des cieux, il est là parce que Jésus essaie de dire, quand vous venez travailler pour le Maître, vous recevez le salut gratuitement comme un cadeau, mais en réalité, le temps que vous pouvez passer au service, ça, c'est la récompense, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le plus, c'est ça votre salaire. La vraie récompense, c'est de pouvoir servir le Maître toute ma vie. Par rapport à ceux qui ne le servent que quelques années, quand à la fin de leur vie, ils rencontrent la vérité en Jésus-Christ seulement, à ce moment-là. Alors, dans cette histoire, je découvre que Jésus essaie de dire, le royaume des cieux n'est pas basé sur le salut par les œuvres, que vous en fassiez beaucoup ou pas, ou peu. Quand vous acceptez de venir travailler dans la vigne du Seigneur, vous recevez le salut gratuitement Jésus-Christ. Mais venez donc le servir. C'est à ça qu'il vous appelle. En fait, il ne vous a pas appelé pour vous donner un denier. D'abord, il vous a appelé pour venir le servir. Et en le servant, le denier tombe automatiquement pour tous ceux qui sont des ouvriers sincères dans sa vie. Mais pour ceux qui ont eu la chance, la grâce d'être appelés dès le printemps de leur vie, le salaire est encore plus grand parce qu'ils ont pu servir longtemps. Sachant que le Maître leur avait donné la vie éternelle. Certains ont compris, peut-être tard, pas les premiers, qu'il y avait une joie particulière au service de ce maître-là. Alors je me pose la question aujourd'hui, peu importe le temps que nous avons déjà passé dans l'Église depuis notre baptême, ce temps est-il un temps de joie et de service volontaire, sachant que le Seigneur nous a sauvés par son sacrifice et que maintenant il nous offre le privilège de pouvoir le servir. Le privilège de pouvoir le servir selon les lignes directrices de sa parole. Le privilège de vivre comme lui nous propose de vivre. Et ça, c'est une grâce. Le royaume des cieux est basé sur ceux qui sont prêts à servir. À servir le Maître, pas parce qu'ils veulent un salaire à la fin du mois ou à la fin de la journée, mais ceux qui sont prêts à servir le Maître parce qu'ils ont compris que le Maître a donné sa vie pour qu'ils aient la vie éternelle. Alors à partir de là, le servir, vous comprenez, c'est une joie, c'est pas un problème, c'est pas un poids, c'est pas un fardeau, c'est une grâce. Il se trouve que nous sommes tous invités à venir travailler dans sa vie. Il ne va peut-être pas donner le même travail à tout le monde. Mais peu importe, c'est toujours pour le même maître que nous travaillons, en fait, n'est-ce pas? Pour certains, ce sera une tâche. Pour d'autres, ce sera une autre. Pour certains, ce sera une tâche plus en vue que pour d'autres. Mais même si on est invité à travailler derrière le rideau de la scène, n'est-ce pas pour le maître qu'on travaille, pas pour ceux qui sont devant la scène? Parce qu'il nous a donné le denier, le salut. Nous sommes donc tous invités à venir travailler dans sa vigne. Le Seigneur nous a invités à des heures différentes de notre vie. Quelle grâce qu'il nous ait trouvé désireux de venir travailler pour lui. L'apôtre Paul nous dit, nous sommes collaborateurs avec Dieu. Mais rendez-vous compte, le Dieu des cieux veut collaborer avec des gens comme vous et moi. Heureusement, lui se rend compte de ce qu'il fait beaucoup plus que nous. Nous sommes tous appelés. Et aujourd'hui, en tant qu'Église, nous voulons mettre à part un homme que l'Église a appelé au service parce qu'elle s'est rendue compte que le Seigneur lui avait donné des talents pour le service. L'Église a demandé à Michaël d'être le premier diacre de notre communauté. Et le diaconat est un service particulier, un service important. Avant que nous demandions au Seigneur de mettre à part cet homme pour le service, j'aimerais l'inviter de venir me rejoindre ici et j'aimerais inviter les anciens à venir avec moi. J'aimerais simplement rappeler ce que la parole de Dieu nous dit. Vous vous souvenez, il nous est raconté dans le livre des Actes comment on en est venu à choisir des diacres. Et permettez que je vous relise ce passage. Au chapitre 6 du livre des Actes, il est dit « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Michaël, Jacques et d'autres. » Voilà comment cette histoire est venue. Ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider. Ils avaient besoin de quelqu'un pour les soutenir dans leur ministère. Alors il y a une part dans ce texte que j'aime bien. Permettez que je fasse un petit peu un spot publicitaire. Il dit au verset 4, « Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Vos pasteurs qui sont ici sur l'estrade ont besoin de pouvoir s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Parce que si tout repose sur un seul, ou deux, ou trois, alors à ce moment-là, comment va-t-on pouvoir réaliser le ministère que chacun a reçu? Ces frères sont les pasteurs de l'église de Saint-Georges. Seulement, nous avons besoin d'hommes, comme il est dit ici, de qui l'on rende un bon témoignage, qui sont remplis de l'Esprit Saint, rempli de sagesse, et qui vont être capables de remplir des tâches particulières de service pour l'Église. L'Église a reconnu en Michaël un homme comme ça. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons le mettre à part pour ce service-là. Être diacre, ce n'est pas celui que l'on charge de faire le nettoyage de l'Église et tous les sales travaux que personne ne veut faire. Ce n'est pas ça le travail de diacre. Le diacre, c'est celui qui, lorsque l'ancien n'est pas là, est responsable de l'Église. D'ailleurs, relisez le livre des Actes. Et regardez, lorsqu'il est question des diacres, que voit-on les diacres faire lorsque la parole de Dieu nous parle d'eux? Vous ne voyez dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, aucun diacre qui tient le balai et qui remplace les ampoules dans l'Église. Vous les voyez toujours qui prêchent l'Évangile. Et ils le prêchent avec succès là où les apôtres ne sont pas encore allés. Et vous voyez Philippe qui va à Samarie. Et vous voyez Étienne. qui va donner sa vie en témoignage de sa foi en Jésus-Christ. Le diacre, c'est d'abord un témoin de Jésus-Christ au nom de l'Église. C'est celui à qui l'Église fait confiance pour la représenter. Alors, je n'aimerais pas que l'Église considère que l'on va imposer les mains à quelqu'un pour faire les sales travaux de l'Église. Ça n'a pas de sens. On impose les mains à un homme parce qu'on le consacre, on le met à part pour un ministère au sein de l'Église. On est en train de lui donner une autorité dans l'Église pour impliquer nous tous dans la tâche de l'Église. Il va être responsable de faire fonctionner une grande partie de l'Église. Mais où sont les mains qui vont accomplir le travail? Est-ce que ce seront ses mains seules? Il a besoin de mes mains, il a besoin de vos mains, il a besoin de chacun d'entre nous. Il y a un passage dans les Écritures que j'aimerais vous relire en rapport avec ça, qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, où il est dit, au verset 17, « Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » J'aimerais vous inviter à avoir envers les diacres de l'Église cette déférence dont l'apôtre parle. Non seulement ce respect, mais aussi de savoir les honorer en leur donnant tout le soutien dont ils ont besoin pour remplir leur ministère. Et si l'un d'entre eux doit vous rencontrer et vous dire, voilà, j'aimerais que tu fasses les choses autrement. Recevez ce conseil et cette invitation comme venant de la part de quelqu'un à qui l'Église a donné une autorité. Notre frère que nous allons recommander au Seigneur va exercer dans l'Église un ministère avec l'autorité que le Seigneur lui donne parce qu'il l'a appelé à ce service-là. Et j'aimerais que tous ensemble, nous reconnaissions l'autorité, la responsabilité de ceux à qui Dieu a confié différents ministères parmi nous. Je crois que nous avons une grâce extraordinaire. La grâce d'avoir reçu de la part de Dieu des dons différents. De manière à ce que tout le travail de l'Église puisse s'accomplir dans les meilleures conditions. Alors, on entend de temps en temps les uns ou les autres dire « Ah, mais moi, je n'arrive pas à faire ceci comme un tel ou comme une telle. » Heureusement, au lieu de regarder avec envie, jalousie, le don que l'autre a, pourquoi ne mettriez-vous pas au service du Seigneur celui que vous avez et d'offrir vos services à ceux qui sont les chefs d'orchestre du travail de l'Église? Est-ce que ce ne serait pas une idée de mettre au bénéfice de l'œuvre de Dieu les talents que nous avons, plutôt que de pleurer sur ceux que nous n'avons pas? J'aimerais maintenant, Michael, te donner la charge évangélique du diacre. Il est dit ceci dans l'épître de Paul à Timothée. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, des gains sordides, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme, bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous allons imposer les mains à notre frère, en réalité, nous allons faire une prière d'intercession, où nous allons demander à Dieu d'accorder à notre frère cette mesure d'esprit nécessaire pour qu'il puisse accomplir le ministère que l'Église a besoin qu'il accomplisse. Notre Dieu, notre Père, en tant qu'Église, nous reconnaissons aujourd'hui que tu nous as donné aux uns et aux autres la grâce de pouvoir te servir en reconnaissance pour le don incroyable du salut en Jésus-Christ. Et tu nous as donné aux uns et aux autres des outils différents, des dons, des talents, des capacités. Nous te louons, Seigneur, d'avoir mis dans ton Église, ici à Saint-Georges, tous ces dons, tous ces talents, toutes ces capacités pour remplir la mission que tu as donnée à ton Église dans cet endroit. Et aujourd'hui, d'une manière particulière, nous te remercions pour Michael, pour les talents que tu lui donnes, et nous te demandons, Seigneur, la grâce qu'il puisse les utiliser dans l'humilité pour ton service. C'est pourquoi maintenant, nous invoquons sur lui ton esprit. Et nous te demandons, Seigneur, de lui donner cette mesure particulière de ton Saint-Esprit pour qu'il puisse exercer son ministère dans l'humilité, mais avec l'autorité que tu donnes pour accomplir la tâche demandée. Seigneur, donne-nous ensemble de marcher d'un même pas et d'être capables de répandre dans cette région l'Évangile que tu nous as donné. Nous te demandons, Seigneur, d'accorder à Michael cette grâce de pouvoir te servir dans la paix, dans la joie, de recevoir de ta part le courage et la force, la sagesse d'accomplir ce ministère. Fais descendre sur lui, nous te le demandons en tant qu'Église, ton Esprit Saint. Seigneur, envoie tes serviteurs partout, là où tu as besoin d'eux, et que leur témoignage porte des fruits jusque dans l'éternité. Te demandons, Seigneur, de bénir cet homme, de bénir sa famille et de bénir ton Église. Au nom et par les mérites de Jésus, notre divin Sauveur, nous te prions et nous disons ensemble. Amen. Amen.